Bonjour à tous, bienvenue dans du grain à moudre d'été. Ce soir, l'ouverture à la concurrence des barrages hydroélectriques. L'État va-t-il y perdre son énergie ? Il y en a 450 en France qui se transforment en presque stations touristiques pendant les vacances. Le barrage de Serre-Ponçon et son lac artificiel, 80 km de rive. Le barrage de Sarance dans l'Aveyron, monstre de béton et de pierre érigé sur un affluent du Lot, la Truyère. Il y a encore le barrage de Bord-les-Orgues sur la Dordogne, une voûte de 390 mètres de long qui s'arc-boute sur les flancs de la vallée. Lors de sa mise en service en 1951, il noya sous les eaux des villes entier. Leur mission numéro 1 à ces barrages, produire de l'électricité, parfois l'équivalent sur un seul site de celle fournie par une centrale nucléaire. L'hydroélectricité représente aujourd'hui 12% de la production nationale de courant. C'est aussi la première source d'énergie renouvelable en France. C'est pourtant dans une période cruciale où doivent être fixés des objectifs clairs de transition énergétique que l'État français va devoir ouvrir à la concurrence la gestion de ces barrages. La Commission européenne l'en exhorte au nom de la concurrence libre et non faussée. Le quasi-monopole d'EDF est donc remis en cause. Absurde pour ceux qui bataillent contre Bruxelles. D'abord parce que ces barrages sont rentables et contribuent donc à renflouer les caisses de l'État. Ensuite et surtout parce que le secteur de l'électricité est un secteur stratégique qu'ils ne veulent pas voir tomber dans le giron du privé et même de groupes étrangers. Alors l'État va-t-il gaspiller son énergie ? On en parle jusqu'à 19h avec trois invités. Nous sommes en studio ici à la Maison de la Radio avec Anna Créti. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeure d'économie à l'Université Paris-Dauphine et vous êtes membre du Centre de géopolitique de l'énergie et des matières premières qui est rattaché au Laboratoire d'économie de Paris-Dauphine. Merci d'être avec nous en studio. Nos deux autres invités sont en duplex, l'un depuis Poitiers dans les studios de France Bleu Poitou que nous remercions. Bonsoir Aurélien Bernier.
Bonsoir.
Vous êtes ancien dirigeant d'Attac, collaborateur régulier au monde diplomatique et vous êtes l'auteur de l'essai « Les voleurs d'énergie, accaparement et privatisation de l'électricité, du gaz et du pétrole » paru aux éditions Utopia, c'était en 2018. Tenez, petite question puisque vous êtes à Poitiers, est-ce que vous êtes allé visiter les barrages de l'île Jourdain sur la Vienne ?
Oui, tout à fait. On a fait une manifestation au mois d'avril avec les syndicats, avec des militants, avec des gilets jaunes, pour dire qu'on refusait la privatisation des barrages.
Les barrages de l'île Jourdain, justement, sont sous le coup d'une concession qui les exploite depuis 1946, qui a été renouvelée en 2001 pour 40 ans, mais vous êtes déjà inquiet pour dans 40 ans moins 18 ans de ce que vont devenir ces barrages et leurs concessions. Voilà, c'est ça. Et vous êtes également en studio. Oui. Vous aurez le temps de nous l'expliquer. Nous sommes également en liaison duplex, depuis Quimper cette fois, depuis les studios de France Bleu Brésil, avec Marc Boudier. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes président de l'Association française indépendante de l'électricité et du gaz, association qui est à la tête de plusieurs opérateurs et producteurs indépendants qui souhaitent, eux, l'ouverture à la concurrence de ces barrages hydroélectriques français. Vous, Marc Boudier, est-ce que vous avez fait un crochet par le barrage de Guerre-les-Dents, à cheval entre le Morbihan et les Côtes d'Armor, en plein centre de la Bretagne ?
Non, j'ai pas fait ce crochet-là, mais je vais certainement y aller.
C'est un gros barrage avec une grosse production hydroélectrique. Est-ce qu'on connaît un petit peu ça ?
Pas vraiment une région de production hydroélectrique et il n'y a pas beaucoup de barrages pour des raisons évidemment géographiques.
Voilà, EDF contrôle encore aujourd'hui 83% des capacités hydroélectriques du pays. Qui sont les 17% qui restent à Anna Créti ?
Oui, alors l'introduction de la concurrence dans ce secteur a été organisée au début des années 2000 suite à l'impératif, encore une fois, venant de la Commission européenne et ce qui a permis l'entrée essentiellement de deux opérateurs qui sont donc GDF d'abord, aujourd'hui Engie, et une concession particulière qui est la Société Nationale du Rhône dans laquelle il y avait la participation historique aussi de la SNCF.
Donc la Société Nationale du Rhône, c'est ça en Rhône-Alpes.
Exactement.
D'accord. Et donc les 17%, c'est ça, il n'y a pas d'autres...
Alors, les 17% ne sont pas également distribués parce que les concurrents d'EDF sont plutôt concentrés dans ce qu'on appelle un peu les petits hydroélectriques. Donc si on passe au grand barrage, à ce moment-là, il n'y a qu'EDF qui est exploitant.
Voilà, abus de position dominante selon la Commission européenne qui a adressé une mise en demeure en mars dernier à la France, mais aussi à 7 autres États européens. Mais je crois, Anna Critique, la France est un cas particulier car l'État est propriétaire de ces ouvrages qu'il a concédés après la guerre pour une durée de 75 ans à peu près. C'est le seul État membre dans cette situation ?
Non, on a la tendance à dire quand il s'agit d'énergie qu'il y a des exceptions un peu partout. En revanche, c'est vrai qu'il n'y a pas un régime unique en Europe de gestion du patrimoine hydroélectrique. Alors déjà, peut-être que l'appellation patrimoine est spécifique à la France. Ailleurs, on les appelle plutôt centrales hydroélectriques avec un côté plus dépassionné. Et on a des modes d'organisation qui vont de solutions un peu plus modernes comme les sociétés mixtes d'exploitation publique-privée, au régime de concession. C'est par exemple le cas de l'Italie, un pays que j'ai longuement étudié, à des concessions qui ont une durée infinie, comme c'est le cas de la Suède, donc les pays nordiques qui sont des grands producteurs hydroélectriques, ou des solutions intermédiaires où, comme en France, l'État est garant et concessionnaire pour des ouvrages particuliers qui ont une capacité de production supérieure à 4,5 mégawatts.
Des dizaines de barrages vont voir leur concession arriver à échéance d'ici 4 ans, en 2023, et une grande partie d'entre eux devraient, si la France obtempère en tout cas aux exigences de Bruxelles, voir leur concession mise en jeu par le biais d'appels d'offres. Alors Marc Boudier, qui s'intéresse d'acheter un barrage français parmi 400 autres ?
Alors d'abord, permettez-moi de réagir sur un ou deux points que vous avez évoqués. Ça n'est pas simplement la Commission européenne qui a prévu cette mise en concurrence. Ce qui a été prévu, c'est par la loi française. La loi Sapin prévoit que pour une concession qui arrive à expiration, il est obligatoire de faire une concurrence. Alors il peut y avoir une exception quand la société est totalement public, ce qui justement n'est plus le cas en France, et ce depuis longtemps, depuis presque 20 ans. EDF est devenue une société avec des milliers d'actionnaires, même s'il y a une très forte encore participation publique, et aujourd'hui le deuxième groupe, c'est-à-dire Engie, lui est très largement privé. Donc on se trouve devant une situation où il y a des concessions qui sont arrivées à échéance ou vont arriver à échéance, et la question est de savoir si on organise une compétition pour avoir la meilleure solution d'abord pour les finances publiques. Je vous voyais dire en introduction, est-ce que on va privatiser pour renflouer les caisses de l'État. En fait, l'important c'est de savoir s'il va y avoir enfin, comme ça a été prévu, des redevances versées par les opérateurs à l'État et aux collectivités publiques.
Est-ce que, je pose la question à Aurélien Bernier, est-ce que cette ouverture à la concurrence peut être aussi l'occasion pour la France de revoir les contrats à la hausse, d'augmenter les redevances ou de les créer, donc de renflouer encore ses caisses ?
Écoutez, je pense pas que le sujet soit véritablement celui-là. On est en fait dans...
On les prend les uns après les autres, il y a le sujet économique et il y a le sujet stratégique.
Oui. Voilà. Mais on est dans une logique d'ouverture à la concurrence de l'électricité d'une manière générale, de l'énergie d'une manière générale, avec une approche qui est purement idéologique. C'est-à-dire qu'il faut privatiser. Pour les libéraux, pour Emmanuel Macron, pour les gouvernements précédents, il faut privatiser. Donc, évidemment, l'argument, c'est de dire... on va faire des économies, sauf que c'est faux parce que le service public aujourd'hui fonctionne très bien et que on privatise en dépit du bon sens, et que la vente des barrages, c'est-à-dire des équipements qui sont totalement amortis, qui permettent de délivrer un mégawattheure qui est le moins cher qui existe aujourd'hui, qui est même moins cher que le mégawattheure nucléaire. Voilà, c'est quelque chose qui, économiquement, n'a aucune justification. À part, une justification idéologique qui est de vouloir redonner au privé une activité qui, auparavant, était publique.
Anna Créti, il y a quand même certains barrages qui ne sont pas rentables, certaines concessions qu'ils sont en tout cas plus difficilement. Je pense à l'usine marémotrice de la Rance près de Saint-Malo ou le barrage du Chambon sur la Romanche en Isère. Toutes les concessions vont être remises en cause et là EDF va se retrouver en position de concurrence avec d'autres acteurs et donc notamment privés qui se mettent sur les rangs. Mais voilà, que faire si EDF ne garde plus que les barrages qui sont les moins rentables pour cette entreprise publique et qui risquent à terme de la mettre dans une sérieuse difficulté, un déséquilibre en tout cas?
Moi, je pense que il s'agit d'un dossier fortement technique et une première distinction à faire qui doit, je pense, guider un peu ces débats, c'est la grande différence entre ouverture à la concurrence et privatisation.
Nous, on a bien dit ouverture à la concurrence.
C'est bien ce qui est aujourd'hui vraiment la question, je pense, à débattre. Parce que quand on fait des annonces en disant 150 concessions vont être vendues, je pense qu'on n'y est pas encore.
Mais sauf à ce qu'EDF les perde toutes.
Ah mais oui, mais attention, quand on parle d'un régime de concession, il est donc réglementé par les codes des marchés publics. Il s'agit donc de contrats qui sont de toute façon à une durée limitée. Ça m'étonnerait qu'on choisisse les modèles de durée illimitée. Et donc, ce sont des installations qui appartiennent à l'État, dans lesquelles les concédants et donc aussi garants de la concession, avec des règles et des critères très stricts sur l'efficacité économique, environnementale et la fameuse question de la redevance, qui est le partage un peu de la rentabilité entre l'État, s'il s'agit de grandes installations, ou les préfets, s'il s'agit d'installations plus petites. Donc mon point de vue, c'est que dans cela, il y a quand même toute une partie institutionnelle et légale qui protège ces installations, qu'il s'agisse de l'exploitant EDF ou d'un concurrent d'EDF.
Alors, Marc Boudier, vous souhaitiez réagir. Ce que j'aimerais essayer de comprendre aussi, parce qu'on est dans le cadre de barrages sur une même rivière, c'est pas du tout comme sur une autoroute où des péages viennent scander une seule et même route. Là, on a une rivière équipée de plusieurs barrages, et ce qu'on fait sur un tronçon se répercute sur le suivant. D'où la question que posent aujourd'hui des responsables d'EDF, qui disent par exemple au sujet de la Truyère, cet affluent du Lot, si Total gère un barrage, Engie, 5 km plus loin, gère un autre, et Hydro-Québec, un troisième, ça se passe comment ?
Ça se passe comme dans beaucoup de pays du monde, madame. Évidemment, la situation d'EDF où il y a un seul opérateur qui a 83%, comme c'était rappelé tout à l'heure, elle est tout à fait exceptionnelle. Donc il y a beaucoup de cas où il y a des partages qui se font dans une même vallée et il est tout à fait naturel qu'il y ait une coopération qui se fasse.
Ou par exemple, en Dordogne, je crois.
Oui, exactement, ça existe déjà, puisqu'il y a quand même, comme ça a été rappelé, pas uniquement un seul opérateur, il y a quelques cas où ça fonctionne.
Et par exemple, comment ça se passe en Dordogne quand un opérateur veut libérer les eaux et que sur l'autre bassin, des baigneurs sont en train de s'ébrouiller?
Vous savez, de toute façon, il y a des règles de sécurité et qui sont applicables même quand il y a un seul opérateur. Même s'il y a seulement EDF, il ne va pas lâcher ses eaux s'il y a des baigneurs. Donc tout ça, comme l'a rappelé Madame Crédit, très bien et très réglementé. Et je reviens sur ce qu'elle disait, qui n'est pas du tout ce que dit Monsieur Grenier, c'est que c'est pas une privatisation. On peut être pour
ou contre. Je crois pas que Aurélien Dernier parlait de privatisation, mais on l'entendra juste
après. Si, puisqu'il a dit qu'il manifestait contre la privatisation et que le but de Bruxelles, c'était de confier au privé. Il l'a dit à plusieurs reprises. Par contre, ce que dit Madame Créti est vrai. Non, on organise une concurrence pour savoir qui sera le nouveau concessionnaire. Est-ce qu'on imagine, puisque vous donniez l'exemple des sociétés autoroutières, qu'à l'expiration d'une concession d'une autoroute, même si c'est effectivement la société qui l'a construit, on ne va pas les mettre en concurrence, il y aurait une prolongation, non, il y a des règles très précises, c'est ça qui est d'abord prévu par la loi française.
On sait avec quel succès ça a été fait sur les autoroutes en l'occurrence.
Justement.
Ça a été compliqué.
C'est ce qu'il faut pas faire. Ah bon. Ce qu'il faut, c'est avoir une capacité de négociation forte. Et il y a eu deux rapports très intéressants de la Cour des comptes qui ont été faits, justement sur une comparaison entre ce qui pouvait se passer dans l'hydraulique et justement sur les concessions autoroutières. Ce que reproche depuis 2013 et de façon très précise et argumentée la Cour des comptes à l'État, c'est son inaction et d'avoir notamment fait en sorte de ne pas récupérer les redevances qui lui sont dues, qui sont dues à chacun des citoyens français que nous sommes. Et la rente est aujourd'hui capturée par deux entreprises qui ne sont plus à 100% publiques. Alors que dans le cas des concessions autoroutières, au contraire, il reproche à l'État d'avoir manqué de fermeté et d'avoir été très faible, finalement, en acceptant des prolongations de concessions moyennant travaux qui ne se justifiaient pas nécessairement.
Alors, donc, Aurélien,
deux cas complètement différents.
Aurélien Bernier, je voudrais vous laisser entendre ce que vous avez à dire là-dessus. EDF va pouvoir quand même postuler sur ses propres concessions. Pourquoi parlez-vous de privatisation ?
Alors bon, déjà, je pense qu'on joue avec les mots en disant privatisation ou non, c'est pas une privatisation parce que c'est une ouverture à la concurrence de concession. Voilà. Enfin bon, dans le droit international, on considère que les privatisations, c'est soit un changement de statut, donc on privatise une entreprise qui était publique et elle devient privée, soit une concession qui est accordée au privé pour un service public. Donc on est véritablement dans ce cadre-là. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que comme on avait un service public de l'énergie et notamment de l'électricité qui fonctionne bien, eh bien, on est en train de prendre à contre-pied tous les principes libéraux. Vous savez, ces principes dont les libéraux nous rebattent les oreilles, de libre concurrence, de ne jamais fausser la concurrence. On est en train de les contredire dans le domaine de l'électricité pour artificiellement laisser une place aux concurrents privés d'EDF. On l'a fait dans le nucléaire en obligeant EDF à vendre à prix coûtant à ses concurrents une partie de sa production, et une partie qui est pas du tout négligeable puisque c'est environ le quart de la production nucléaire qui est comme ça mise à disposition des opérateurs privés qui ensuite viennent vous démarcher pour vous vendre de l'électricité à domicile. Et avec cette ouverture à la concurrence des barrages, on fausse encore la concurrence parce que EDF peut très bien postuler en faisant des offres qui vont être meilleures que les opérateurs privés. L'État veut écarter EDF d'un certain nombre de concessions pour être sûr d'avoir une concurrence du privé.
Mais quel intérêt aurait l'État à vouloir écarter EDF ?
On est en train de bafouer toutes les règles de libre concurrence.
Quel intérêt aurait l'État à vouloir écarter EDF quand on voit que dans plein de contrats de concession, des accords ont été passés avec EDF et des collectivités locales au terme de très longues années de tractation. On voit que des mécanismes, des accords se sont mis en place, notamment pour que l'exploitant devienne un acteur local à part entière, tout dévoué à servir l'intérêt d'un territoire. Notamment, il y a plein de services qui sont rendus par EDF pour les collectivités locales autour d'un barrage. Par exemple, à chaque fois qu'une collectivité donne la consigne d'un lâcher d'eau, ça se fait pas. Ça se fait assez facilement. Anacréti, c'est vrai qu'on se dit tout ça fonctionnait quand même très bien. Et les collectivités locales étaient plutôt contentes des accords signés avec EDF. Pourquoi on va changer tout ça ?
Ils n'ont pas de raison de croire qu'elles ne seront pas contentes avec l'éventuel concurrent d'EDF. C'est-à-dire que comment techniquement, ça devrait se passer parce que après, voilà, au-delà des mots, il faut voir qu'est-ce que ça signifie ce processus. Et pour faire cela, je me permets de revenir en arrière en 2010. Borloo, je vous dis quelque chose. On revient. En fait, c'est un feuilleton.
De l'écologie et de l'énergie.
Exactement, c'est un feuilleton cette histoire de barrage hydroélectrique. Parce que déjà, en fait, il y avait la première obligation. Voilà, elle est passée déjà depuis 2010. À cette époque-là, les gouvernements avaient imaginé une création de ce qu'on appelle les bassins de concurrence pour l'hydroélectricité, qui avaient été optimisés selon des critères techniques et d'efficacité économique, qui donc constituaient regroupements les plus efficaces pour être en fait après confiés à des mécanismes de concurrence. Et ceci comprenait des concessions qui allaient être proche de l'échéance, et d'autres concessions qui à l'époque n'étaient pas encore proches de l'échéance, mais qu'il aurait fallu donc anticiper, dont la fermeture de la concession aurait dû être anticipée, pour garantir justement cette unité technico-économique et aussi pour garantir une cohésion territoriale. Donc ces processus de négociation ont existé depuis des années avec EDF. EDF fera partie des concurrents, d'autres opérateurs français ou étrangers aussi, et ils devront démontrer leur capacité à être des bons concessionnaires. Et c'est là, c'est pour ça que économiquement, ces processus s'appellent concours de beauté. Parce que justement, les opérateurs doivent les uns les autres, enfin, doivent montrer qui est les plus beaux, qui est les meilleurs.
Marc Bouvier, c'est le principe des appels d'offres, mais c'est vrai qu'on se dit que sur l'énergie et sur l'électricité, secteur stratégique par excellence, et notamment quand a été construit, j'en prends un parmi donc 450, le barrage de Bord-les-Orgues sur la Dordogne, on avait vraiment ce discours de dire on refuse la dépendance au charbon du Royaume-Uni et de l'Allemagne. Voilà, on avait un discours d'indépendance stratégique. Alors, si aujourd'hui ce secteur-là est mis à la concurrence comme n'importe quel secteur, ça pose question.
Oui, mais attendez, quels seront les critères de la concurrence? Ce ne sera pas uniquement des critères économiques et financiers. Il y a aussi, évidemment, dans le concours de beauté, à avoir la capacité à proposer des choses dans le domaine de l'animation des vallées, de l'environnement. Les postulants, il s'agit de sociétés qui ont plus de 100 ans d'expérience aussi dans le domaine hydroélectrique. Des sociétés comme le finlandais Fortum, Vattenfall. Vattenfall, entre parenthèses, est 100% public. Alors si on peut pas parler de privatisation à ce moment-là. On peut parler d'intervention d'opérateurs étrangers. Mais, si vous voulez, donc là, on a affaire... Il y a des opérateurs qui sont aussi membres de la FIEG suisse, comme BKW, qui appartient majoritairement au canton de Berne, ou Alpiq, qui sont des opérateurs internationalement reconnus, et y compris dans leur savoir-faire en matière de gestion de l'eau. Donc, c'est l'idée... La différence, elle est très simple, c'est ou bien l'État, au moment où une concession arrive à échéance, se dit, bon, ben, de toute façon, je vais avoir qu'un seul candidat, et quoi qu'il me propose, ou bien il fait une comparaison sur les trois critères dont je viens de parler, financier, bien sûr, environnemental, économique aussi, parce qu'il y aura des investissements lourds à faire si on veut améliorer la situation dans les barrages, et je ne suis pas sûr qu'il y ait eu suffisamment dans les années qui se sont écoulées aujourd'hui, d'investissements dans le domaine hydraulique à la hauteur de ce qu'a rapporté la rente pour les sociétés qui ont bénéficié de ces concessions. Donc c'est ça qu'il s'agit de trancher, c'est ou bien un pas de choix, ou bien un choix.
Aurélien Bernier.
Oui, en fait la politique d'EDF est effectivement tout à fait critiquable, notamment sur des investissements qui auraient dû être faits et qui n'ont pas été faits.
Et je veux dire de sécurité,
n'ont pas
par
été
exemple.
Faits pour des raisons justement d'ouverture à la concurrence. C'est-à-dire que quand on a annoncé qu'il y aurait une mise en concurrence, qu'il y aurait un marché européen de l'électricité et que EDF pourrait être concurrencé par des entreprises privées ou publiques effectivement d'autres États. On a mis ce qui était un service public et encore une fois qui fonctionnait très bien dans une logique de concurrence. C'est-à-dire que on a forcé EDF à raisonner comme une entreprise privée puisqu'on allait la mettre en concurrence avec des entreprises privées. Et c'est à partir de là qu'on a eu des choix totalement aberrants, notamment d'aller investir dans des pays étrangers pour aller essayer de piquer des marchés pour éventuellement compenser des marchés qu'on allait perdre en France. Et on a perdu cette notion de service public avant même que le capital d'EDF soit introduit en bourse et avant même que les barrages soient ouverts à la concurrence. Et ce qui est terrible, c'est que quand vous êtes l'État, vous pouvez demander un certain nombre de choses à des entreprises publiques. Et l'enjeu aujourd'hui majeur, c'est l'enjeu de la transition énergétique. C'est l'enjeu de la transition écologique d'une manière générale. Et l'État aurait très bien pu forcer EDF à faire les investissements en question, y compris sur des petits barrages où on a besoin d'aménagements pour réaliser la continuité écologique, de la même manière qu'EDF aurait pu être contraint de développer les énergies renouvelables. Alors que aujourd'hui, eh bien, on nous explique qu'il faut développer les énergies renouvelables en introduisant la concurrence et en permettant à des opérateurs privés de le faire. Vous voyez, il y a une espèce de schizophrénie de la part de l'État qui, en même temps, détruit son propre service public petit à petit et qui ensuite, une fois que le service public est bien détruit, eh bien, explique qu'il faut introduire la concurrence. Et c'est pas quelque chose de spécifique à l'électricité, on a vu exactement la même stratégie avec le transport ferroviaire, où on a cassé la SNCF, et une fois que la SNCF était bien cassée, eh bien, on a annoncé qu'on allait ouvrir à la concurrence.
Anna Créti, est-ce que vous l'entendez ça? Est-ce qu'en pleine époque où on nous parle de transition énergétique, est-ce qu'on n'aurait pas besoin, donc particulièrement en ce moment, d'un contrôle public, d'une entreprise publique qui applique une ligne fixée par des politiques? Et l'hydroélectrique est, je le rappelle, la première source d'énergie renouvelable, donc il a vraiment cette énergie-là a un rôle à jouer dans la transition énergétique, un rôle énorme.
Il y a deux arguments très importants hein, dans la question que vous posez. Donc, je vais essayer de séparer les enjeux parce que je crois qu'on est en train un peu de les mélanger. Donc, l'ouverture à la concurrence du secteur de l'électricité, du gaz, donc de l'énergie, est une réalité depuis 1996. Que l'État français le veuille ou pas, on a décidé de mener la politique énergétique dans le cadre de lois européennes. Après, chaque pays l'adapte selon ses propres règles, ses propres convictions. Et je ne pense pas qu'il y ait une démonisation du fait d'avoir de la concurrence et de perdre le contrôle des objectifs stratégiques confiés au secteur énergétique.
Mais en quoi ça l'intéresse un groupe, par exemple, québécois? En quoi ça l'intéresse les objectifs fixés par le gouvernement français en termes de transition énergétique? Pourquoi serait-il obligé de jouer en cette faveur-là?
Ce sont deux questions complètement différentes. Une chose, c'est pourquoi Vattenfall, qui a essayé de, effectivement, qui est rentré maintenant sur les marchés français en tant que fournisseur d'électricité, donc dans les marchés pour les consommateurs finaux, a essayé depuis longtemps de se positionner sur les barrages sans y arriver. Il est là pour, effectivement, élargir son propre marché et faire fonctionner de la façon économique, environnementale et sociétale la plus correcte les barrages électriques, tout en faisant du profit. De la même façon qu'EDF a investi à l'étranger, c'est un jeu international. Quant aux règles fixées par la transition énergétique, tout opérateur qui sera amené à produire de l'électricité, du gaz, de l'électricité renouvelable ou non renouvelable en France, devra se conformer. Donc, pourquoi on devrait penser que l'État n'est pas capable de mener la transition énergétique indépendamment du degré de concurrence du secteur?
Marc Boudier, j'aimerais qu'on insiste un petit peu sur le côté stratégique de ce secteur de l'énergie. On est face à des barrages dont les concessions vont être remises ouvertes à la concurrence, avec des groupes privés qui peuvent se positionner sur ces concessions et des groupes étrangers publics, mais étrangers. Est-ce qu'on imagine une seule seconde, par exemple, que nos centrales nucléaires tombent entre les mains d'un groupe américain ou d'un groupe chinois? Or, les barrages aujourd'hui assurent un rôle de refroidissement des centrales nucléaires, d'irrigation pour la culture, ils répondent en urgence aux pics de consommation, donc elles ont des obligations de service public ou d'intérêt général.
Absolument. Et d'ailleurs, le garant de ces obligations, c'est RTE, c'est-à-dire c'est le réseau de transport. Ça n'est pas l'opérateur EDF, c'est RTE qui est là pour veiller au respect des règles du jeu, et c'est lui qui commande dans cette matière quand on peut produire et quand on doit produire. En ce qui concerne la transition énergétique, bon, le sujet de l'hydraulique est un des sujets, bien sûr, mais on sait que malheureusement, il n'y a pas beaucoup de capacité aujourd'hui à faire de nouveaux grands barrages pour des questions environnementales tout à fait estimables et acceptables. Donc, le véritable moyen de progresser, c'est d'améliorer les barrages existants, et ça implique des investissements lourds, hein, d'avoir des turbines modernes, d'avoir plus d'installations, d'avoir des capacités éventuellement de créer des steppes, hein, pour faire des stockages.
Alors qu'est-ce que c'est les steppes? Oui, c'est intéressant, les steppes hydrauliques, les stations de pompage et de transfert d'énergie, voilà. Ça marche comme des batteries en fait. C'est ça,
exactement.
On stocke l'électricité.
Alors, exactement, il y en a une grosse qui se fait actuellement en Suisse par exemple, une très grosse et coûteuse.
Et en Savoie aussi, je crois, à La Coche, à Aigueblanche.
Donc, exactement. Donc, ça peut être parmi les éléments de proposition. C'est pas forcément une bonne solution. C'est pas forcément une solution adaptée dans tous les cas. Enfin, vous voyez qu'il y a matière à investir, et c'est ça qui va faire qu'on ira vers une transition énergétique, c'est qu'on va augmenter le potentiel de production de l'hydraulique, même si on n'augmente pas le nombre de grands barrages. Et pourquoi? Parce qu'on aura des bonnes solutions, des meilleures solutions proposées, y compris. D'ailleurs, si c'est EDF qui gagne, qui va être obligé de présenter sa meilleure copie de ce point de vue-là.
Et d'ailleurs,
FIAC n'a jamais été pour l'exclusion d'EDF de la compétition.
Et d'ailleurs, je crois, Aurélien Bernier, que des dispositions ont été prises pour protéger certains barrages en prenant, par exemple, dans la loi de transition énergétique de 2015, une disposition selon laquelle un barrage qui est soumis à des travaux de modernisation restera dans le giron d'EDF. Or, beaucoup de barrages doivent faire l'objet de travaux de modernisation. Ça limite peut-être un petit peu cette ouverture à la concurrence que vous craignez.
Oui, ça limite un peu, et effectivement, on peut avoir des cahiers des charges qui permettent d'éviter que ce soit absolument n'importe quoi. C'est tout à fait évident, et heureusement.
Par vous, contre, c'est plus sur l'esprit, en fait, que vous êtes dubitatif.
Vous voulez, il y a deux choses. Il y a une question de principe qui est que l'énergie est un service public. Ça l'a été pendant des décennies. Ça l'a été dans tout un tas de pays à travers le monde. C'est pas du tout une exception française. On a nationalisé l'énergie au Royaume-Uni, en Autriche, dans tout un tas de pays d'Europe et dans le monde. Et si on l'a fait, il faut se souvenir des raisons. Et c'est ce que je raconte dans mon livre. On l'a fait, les gouvernements l'ont fait, y compris des gouvernements qui n'étaient pas forcément des gauchistes. Au contraire, l'ont fait à cause des abus incroyables des entreprises privées qui pratiquaient des prix absolument prohibitifs, qui réalisaient des ententes, qui ne desservaient que les zones rentables, c'est-à-dire que on électrifiait les zones urbaines où il y avait une bonne densité de population et d'entreprises, et puis dans les zones rurales, on n'allait pas investir parce que c'était pas rentable. Et cette logique de rentabilité du secteur privé dans l'énergie a amené les États massivement à créer des services publics en disant ce secteur est trop important pour qu'on le laisse entre les mains du privé. Et voilà, donc on oublie l'histoire, on oublie les raisons qui ont poussé à créer ces grands services publics, et aujourd'hui on nous réexplique que ça va marcher. Alors vous parliez du barrage de Guerre-les-Dents tout à l'heure. Alors, je vous invite à aller le voir parce que c'est un site qui est magnifique, mais il y a une
petite histoire. C'est à cheval entre le Morbihan et les Côtes d'Armor.
Exactement. C'est un site qui a une histoire et qui est assez intéressante. Il est construit par une société qui est la Société Générale d'Entreprise, qui est l'ancêtre de Vinci. Et cette entreprise, dans les années 30, a une concession pour construire ce barrage. Et dans le contrat de concession, eh bien, on lui demande de permettre de faire des aménagements pour permettre la continuité du transport fluvial, c'est-à-dire de faire des écluses pour que les bateaux puissent continuer à circuler parce que le barrage interrompait la circulation des navires. Et donc, l'ancêtre de Vinci dit « oui, pas de problème, on signe le contrat de concession », ils construisent le barrage et ne font pas les travaux. Et quand les départements bretons, quand l'État leur demande des comptes, eh bien, ils expliquent que c'est trop coûteux et que si on veut que les travaux soient faits, eh bien, il faut accepter une hausse du prix de l'électricité fournie par le barrage ou alors une taxe sur le passage des bateaux. Voilà, cette histoire est véridique et elle montre bien ce qui se produit quand on transfère un ouvrage de ce type-là au privé. On se met dans une position d'être soumis au chantage, y compris au chantage à l'emploi, et on ne sait pas ce que les gouvernements accepteront face à ce chantage.
Alors, Marc
peut-être que le gouvernement peut tenir bon et dire bah non, on vous oblige à assurer le service correctement, et peut-être que le gouvernement peut lâcher. Et en ce moment, quand on a un gouvernement comme celui d'Édouard Philippe et d'Emmanuel Macron, eh bien, on sait qu'on a tendance à lâcher face aux exigences des entreprises.
Édouard Philippe, dont on ne comprend pas tellement sa position, puisqu'il dit refuser le morcellement de ce patrimoine qui appartient aux Français et qui, par ailleurs, dit avoir besoin d'actifs pour financer l'innovation de rupture, notamment pour la transition énergétique, et donc de devoir vendre ses barrages. Marc Boudier, pour réagir à ce que vient de dire Aurélien Bernier, qu'est-ce qui, d'après vous, et ensuite on entendra Anna Créti, qu'est-ce qui aurait changé aujourd'hui, en 2019, qui permettrait de dire que ce qui n'a pas marché avant la nationalisation pourrait marcher aujourd'hui?
Alors là, c'est un exemple très particulier qui a été cité. Moi, je pourrais vous citer des cas où aussi un certain nombre d'investissements n'ont pas été faits
par EDF, vous voulez dire.
Par l'opérateur actuel, bon, bien sûr.
Et où, il y a eu des accidents.
Quand vous n'avez pas de choix et que vous n'avez pas d'alternative, là, c'est même pas un chantage, c'est vous êtes un petit peu... Bon, mais moi, je fais... Vous avez aujourd'hui des règles extrêmement précises dans ce domaine parce que, justement, il y a des risques associés à la sécurité, sans revenir sur l'affaire de Malpassé en 1959, il faut faire attention que les investissements de sécurité figurent dans le cahier des charges, et tout manquement doit conduire tout simplement à l'élimination du concessionnaire, si jamais ce sont des manquements graves, et c'est bien ce qui se passera. Mais il y a aujourd'hui, et pourquoi ça se passera? Parce qu'il y a encore aujourd'hui une offre. Il y a un certain nombre d'investisseurs qui, malgré tout, malgré le fait qu'il ne s'est rien passé depuis 10 ans, mais rien en termes d'application concrète, on est toujours à la même situation, sont quand même encore intéressés.
Anna Créti,
on parlait de transition.
Non, alors rapidement, s'il vous plaît. Oui.
Sur la transition énergétique. On vient d'avoir un appel d'offres sur les barrages offshore, où ont participé un grand nombre d'acteurs internationaux, dont Vattenfall, par exemple. Bon, le gagnant, c'est EDF. Alors, à 44 euros par mégawatt-heure, c'est-à-dire à peine plus cher que le nucléaire historique dont M. Bernier disait tout à l'heure qu'on le bradait à prix coûtant, on le vendait à prix coûtant. Donc, il faut bien voir que jamais EDF n'aurait fait cette offre, et d'ailleurs, ça s'était passé il y a quelques années dans des conditions différentes, s'il n'y avait pas eu la pression de la concurrence. Et il faut simplement pas que, à chaque fois, comme au football, ce soit les Allemands qui gagnent à la fin, que EDF gagne dans tous les cas, ou qu'on n'organise même pas de concurrence.
Alors, Anna Créti, certes, il y a eu déjà des accidents, responsabilité d'EDF a déjà été mise en cause dans certains cas où des barrages ont cédé, par exemple, sans d'ailleurs faire de victimes. C'était en 2006, par exemple, une vanne du barrage de la Tulière sur la Dordogne, 5 millions de mètres cubes d'eau libérés d'un coup. Il n'y a pas eu de victimes, mais ça aurait pu être dramatique. Mais à part quelques accidents. Est-ce que vous feriez le reproche à EDF de ne pas avoir géré efficacement ces barrages, de ne pas avoir géré l'énergie comme un bien commun pour qu'il faille remettre en cause ce monopole public?
C'est très difficile de répondre en disant que EDF est... n'a pas suffisamment fait de travaux de prévention pour éviter des accidents, donc les risques zéro n'existent pas, et un certain nombre d'accidents est entre guillemets presque normal. C'est qu'on peut dire de façon objective, après il faudrait vraiment voir l'historique et les opérations de maintenance exploitation par exploitation. C'est vrai que donc toute la partie de la production hydraulique est quand même relativement stable depuis plusieurs années, 40 années, donc, et même dans la transition énergétique, comme on vient de le rappeler, pour des contraintes environnementales, l'augmentation de la production hydroélectrique est la dernière par rapport aux autres énergies renouvelables, donc plus de 2%, 2,5% seulement. Et par contre, il y a effectivement sur certains barrages des améliorations de productivité, et qui seront, encore une fois, qui feront partie des obligations sûrement intégré dans les dossiers de mise en concurrence des concessions. Encore une fois, moi je suis vraiment confiante dans la puissance des règles. L'électricité est soumise à une obligation de service universel. Depuis l'introduction à la concurrence, on n'a jamais vu d'accident majeur sur des ruptures d'approvisionnement, sur des interruptions de service. Et donc, à l'intérieur de ces questions, donc des mises en concurrence des concessions, il faut que l'entreprise qui participe à l'appel d'offres détaille tous les investissements d'amélioration, de contribution à la demande de PIC, de respect des critères environnementaux. Donc c'est vraiment très complexe. Donc je ne vois pas comment EDF ou ses concurrents peuvent s'échapper.
Ce qui est vrai, Aurélien Bernier, c'est que avec l'ouverture à la concurrence des barrages, on achève de scinder les activités de production, de gestion du réseau et de fourniture, qui l'activité de fourniture a déjà été libéralisée pour les particuliers en 2007. Voilà, avec quelles conséquences, notamment pour les consommateurs, puisqu'on a toujours dit que les consommateurs devaient être les premiers bénéficiaires de cette libéralisation. Pardon.
Oui, alors on est en train de parachever un modèle qui a été imaginé par les libéraux dans les années 70-80 et qui consiste à découper un service public de production d'électricité en morceaux avec d'un côté la production, à l'autre bout la fourniture, donc la vente au consommateur final, et entre les deux le réseau. Et l'intérêt de scinder en plusieurs morceaux, eh bien, c'est que on peut ouvrir à la concurrence, privatiser la production, même chose sur la commercialisation, et que par contre le réseau, voilà, qui en général est assez peu profitable économiquement, reste public. Et qu'est-ce que ça a donné ? Ça a donné que des opérateurs privés se sont mis à vendre de l'électricité et en annonçant des prix défiant toute concurrence. Alors, ce qu'ils oublient souvent de dire quand on vous propose des prix intéressants, c'est que ça ne porte vraiment que sur le prix de la marchandise électricité, le prix de l'électron, c'est-à-dire que ça porte pas sur le prix global dans lequel vous avez énormément de taxes. Donc quand on vous annonce une énergie, une électricité 20% moins chère qu'EDF, c'est quasiment de la publicité mensongère.
Parce que je voudrais faire réagir Marc Boudy, on arrive à la fin de cette émission.
Non, juste
et, attendez, Aurélien Bernier n'a pas terminé et ensuite vous Marc Boudy. Oui.
On a des opérateurs privés qui aujourd'hui font quoi ? Eh bien, qui achètent à prix coûtant de l'électricité qui est produite par EDF, par le nucléaire, et qu'ils revendent cette électricité et en empochant au passage des bénéfices. Voilà tout ce qu'on a réussi à faire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'investissements qui ont été faits dans le secteur électrique. On a simplement des opérateurs qui achètent la marchandise d'EDF et la revendent à sa place.
Marc Boudier, comment ça pourrait se passer autrement ? Oui, vraiment quelques secondes.
Mais oui, malheureusement. Vous ferez une deuxième émission.
Voilà.
Bon, d'abord, les réseaux, Monsieur Bernier, c'est ce qu'il y a de plus rentable aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs pour ça que tous les fonds d'investissement se battent pour avoir des activités régulées, comme des réseaux de distribution d'électricité, plutôt que des activités plus risquées et aléatoires, comme la fourniture d'énergie ou la production d'énergie. Et c'est pour ça que si Enedis un jour était en partie privatisé, ça vaut une fortune. Donc je vous le dis au passage. Par ailleurs, c'est la question de Monsieur Bernier, par contre, est juste. C'est que la concurrence ne peut porter que sur la part ou de l'énergie. Quand vous avez une augmentation, comme ça a été récemment le cas, des prix réglementés de l'électricité, c'est aussi très largement le fait des taxes, hein, ou des coûts d'acheminement. C'est pas la partie uniquement production d'énergie. Donc effectivement, mais malgré tout, c'est un moyen. Quand vous avez des opérateurs qui vous proposent aujourd'hui 10% de moins, bah écoutez, c'est pas des masochistes qui acceptent de passer avec eux, et ce sont en général des opérateurs de bonne facture.
Voilà. C'est la fin de l'émission, vraiment. Marc Boudier, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour en parler. C'est vrai qu'il faut faire une deuxième émission pour continuer tout ça. Merci à vous, Anna Créti, également d'avoir été avec nous. Aurélien Bernier, je rappelle le titre de votre essai, Les voleurs d'énergie, accaparement et privatisation de l'électricité, du gaz et du pétrole, aux éditions Utopia en 2018. Merci à toute l'équipe du Grain à Moudre d'été. L'émission était réalisée par Milena et Ligue, avec la prise de son Jean-Guy Limège, et merci à France Bleu Poitou et France Bleu Brésisel. Dans un instant, Matière à penser.